dans la théorie freudienne, objet oral, objet anal, objet phallique, et vous savez que je mets en doute que soit homogène à la série l'objet génital. Tout ce que j'ai déjà amorcé, tant dans mon enseignement passé que plus spécialement dans celui de cette année, vous indique que cet objet, défini dans sa fonction par sa place comme petit a, le reste de la dialectique du sujet à l'autre, que la liste de ces objets doit être complétée. Le petit a, objet fonctionnant comme reste de cette dialectique, il est bien sûr que nous avons à le définir dans le champ du désir à d'autres niveaux dont j'en ai déjà assez indiqué que pour que vous sentiez, si vous voulez, que grossièrement ces quelques coupures survenant dans le champ de l'œil et dont est fonction le désir attaché à l'image, autre chose plus loin que nous connaissons déjà et où nous retrouverons ce caractère de certitude fondamentale déjà repéré par la philosophie traditionnelle et articulé par Kant sous la forme de la conscience. C'est là que ce mode d'abord sous l'angle du petit a nous permettra de situer à sa place ce qui jusqu'ici est apparu comme énigmatique sous la forme d'un certain impératif dit catégorique. Le chemin par où nous procédons, qui revivifie toute cette dialectique par l'abord même qui est le nôtre, à savoir le désir, le chemin par où nous procédons cette année, qui est l'angoisse, je l'ai choisi parce qu'il est le seul qui nous permet de faire, d'introduire une nouvelle clarté quant à la fonction de l'objet par rapport au désir. Comment c'est ce que ma leçon de la dernière fois a voulu présentifier devant vous. Comment tout un champ de l'expérience humaine, une expérience qui se propose comme celle d'une forme, d'une sorte de salut, de l'expérience bouddhiste, a-t-elle pu poser à son principe que le désir est illusion ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est facile de sourire de la rapidité de l'assertion que tout n'est rien. Aussi bien, vous l'ai-je dit, n'est-ce pas, de cela qu'il s'agit dans le bouddhisme. Mais si, pour notre expérience aussi, cette assertion que le désir n'est qu'illusion peut avoir un sens, il s'agit de savoir par où ce sens peut s'introduire, et pour tout dire, où est le leur. Le désir, je vous apprends à le repérer, à le lier à la fonction de la coupure, à le mettre dans un certain rapport avec la fonction du reste. Ce reste est ce qui le soutient et ce qui l'anime. Et c'est ce que nous apprenons à repérer dans la fonction analytique de l'objet partiel. Pourtant, autre chose est le manque auquel est liée la satisfaction. Cette distance du lieu du manque dans son rapport au désir, comme structuré par le fantasme, par la vacillation du sujet, dans son rapport à l'objet partiel, cette non-coïncidence du manque dont il s'agit avec la fonction, désir, si je puis dire en acte, c'est là ce qui crée l'angoisse. Et l'angoisse seule se trouve visée la vérité de ce manque. C'est pourquoi, à chaque niveau, à chaque étape de la structuration du désir, si nous voulons comprendre ce dont il s'agit dans cette fonction, celle du désir, nous devons repérer ce que j'appellerai le point d'angoisse. Ceci va nous faire revenir en arrière et d'un mouvement commandé par toute notre expérience, puisque tout se passe comme si, étant arrivé avec l'expérience de Freud à buter sur une impasse, impasse que je promets n'être qu'apparente, mais jusqu'ici jamais franchie, celle du complexe de castration, tout se passe comme si cette butée, il reste à expliquer ce qui peut-être me permettra aujourd'hui de conclure sur quelques affirmations concernant ce que veut dire la butée de Freud sur le complexe de castration. Et pour l'instant, rappelons-en dans la théorie analytique, la conséquence. Quelque chose comme un reflux, comme un retour qui ramène la théorie à chercher en dernier ressort le fonctionnement le plus radical de la pulsion au niveau oral. Il est singulier qu'une analyse, qu'un aperçu qui inauguralement a été celui de la fonction nodale dans toute la formation du désir de ce qui est proprement sexuel ait été au cours de son évolution historique de plus en plus amené à chercher l'origine de tous les accidents, de toutes les anomalies, de toutes les béances qui peuvent se produire au niveau de la structuration du désir dans quelque chose dont ce n'est pas tout de dire qu'il est chronologiquement originel, la pulsion orale, dont il faut encore justifier qu'elle soit structurellement originelle, si c'est à elle qu'en fin de compte, nous devons ramener l'origine, l'étiologie de tous les achoppements auxquels nous avons affaire. Aussi bien ai-je déjà abordé ce qui, je crois, doit pour nous rouvrir la question de cette réduction à la pulsion orale en y montrant cette façon dont actuellement elle fonctionne, à savoir comme un mode métaphorique d'aborder ce qui se passe au niveau de l'objet phallique, une métaphore qui permet d'éluder ce qu'il y a d'impasse créé par le fait que n'a jamais été résolu par Freud au dernier terme ce qu'est le fonctionnement du complexe de castration, ce qui le voile en quelque sorte, ce qui permet d'en parler sans rencontrer l'impasse. Mais si la métaphore est juste, nous devons à son niveau même voir l'amorce de ce dont il s'agit. C'est pourquoi elle n'est ici que métaphore, et c'est pourquoi c'est au niveau de cette pulsion orale que déjà une fois, j'ai essayé de reprendre la fonction relative de la coupure, de l'objet, du lieu de la satisfaction et de celui de l'angoisse, pour faire le pas qui nous est maintenant proposé, celui où je vous ai mené la dernière fois, c'est-à-dire le point de jonction entre le petit a fonctionnant comme moins phi, c'est-à-dire le complexe de castration, et ce niveau que nous appellerons visuel ou spatial, selon la face où nous allons l'envisager, qui est à proprement parler celui où nous pouvons au mieux voir ce que veut dire le leurre du désir, pour pouvoir faire fonctionner ce passage, ce qui est notre fin d'aujourd'hui, nous devons un instant nous reporter en arrière, revenir à l'analyse de la pulsion orale pour nous demander, pour bien préciser où est à ce niveau la fonction de la coupure. le nourrisson et le saint. Voilà ce autour de quoi sont venus pour nous se concentrer tous les nuages de la dramaturgie, de l'analyse, l'origine des premières pulsions agressives, de leur réflexion, voire de leur rétorsion, la source des boiteries les plus fondamentales dans le développement libidinal du sujet. Reprenons donc cette thématique qui ne convient pas de l'oublier, est fondée sur un acte originel, essentiel, la subsistance biologique du sujet dans l'ordre des mammifères, celui de la succion. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui fonctionne dans la succion? Apparemment, les lèvres. Les lèvres où nous retrouvons le fonctionnement de ce qui nous est apparu comme essentiel dans la structure de l'érogénéité, la fonction d'un bord. Que la lèvre se présente sous l'aspect quelque chose qui est en quelque sorte l'image même du bas, de la coupure, c'est là en effet quelque chose qui doit suffisamment nous indiquer après que j'ai essayé pour vous de figurer l'année dernière dans la topologie qui définit le petit A, c'est là quelque chose qui doit nous faire sentir que nous sommes en un terrain assuré. Aussi bien, il est clair, que la lèvre elle-même, incarnation, si l'on peut dire, d'une coupure, que la lèvre, singulièrement, nous évoque ce qu'il y aura à un tout autre niveau, au niveau de l'articulation signifiante, au niveau des phonèmes les plus fondamentaux, de plus liés à la coupure. Les éléments consonantiques du phonème, suspension d'une coupure, étant, pour leur stock le plus basal, essentiellement modulés au niveau des lèvres. Je reviendrai peut-être, si nous avons le temps, sur ce que j'ai plusieurs fois déjà indiqué de la question des mots fondamentaux, et de leur spécificité apparente, du mama et du papa, ce sont des articulations, en tout cas, labiales. Même si quelque chose peut mettre en doute leur répartition apparemment spécifique, apparemment générale, sinon universelle. Que la lèvre, d'autre part, le lieu où symboliquement peut être repris sous forme de rituel la fonction de la coupure, que la lèvre soit quelque chose qui puisse être au niveau des rites d'initiation percés, étalés, triturés de mille façons, c'est là aussi ce qui nous donne le repère que nous sommes bien en un champ vif et dès longtemps dans les praxis humaines reconnues. Est-ce là tout? Il y a derrière la lèvre, ce qu'Homer appelle l'enclos des dents, et la morsure. C'est là autour que nous faisons jouer dans la façon dont nous en agissons avec la dialectique de la pulsion orale, sa thématique agressive, l'isolation fantasmatique de l'extrémité du sein, du mamelon, cette virtuelle morsure impliquée par l'existence d'une dentition dite lactéale, voilà ce autour de quoi nous avons fait tourner la possibilité du fantasme de l'extrémité du sein comme isolé, quelque chose qui déjà se présente comme un objet non seulement partiel mais sectionné. C'est par là que s'introduit dans les premiers fantasmes qui nous permettent de concevoir la fonction du morcellement comme inaugurante, c'est là ce dont nous nous sommes à la vérité jusqu'ici contentes. Est-ce à dire que nous puissions maintenir cette position? Vous le savez, parce que déjà, dans un séminaire, qui est, si je me souviens bien, celui que j'ai fait le 6 mars, j'ai accentué comment toute la dialectique dite du sevrage, de la séparation, devait être reprise en fonction même de ce qui, dans notre expérience, nous a permis de l'élargir, nous est apparu comme ces résonances, ces retentissements naturels, à savoir le sevrage, la séparation primordiale, celle de la naissance, et celle de la naissance. Si nous y regardons de près, si nous y mettons un peu plus de physiologie, eh bien là, faites pour nous éclairer. La coupure, vous ai-je dit, est ailleurs que là où nous la mettons. Elle n'est pas conditionnée par l'agression sur le corps maternel. La coupure, comme nous l'enseigne, si nous tenons, et c'est à juste titre que nous avons reconnu dans notre expérience, qu'il y a analogie entre le sevrage oral et le sevrage de la naissance, la coupure est intérieure à l'unité individuelle primordiale telle qu'elle se présente au niveau de la naissance, où la coupure se fait entre ce qui va devenir l'individu jeté dans le monde extérieur et ses enveloppes qui sont parties de lui-même, qui sont en tant qu'élément de l'œuf homogène à ce qui s'est produit dans le développement ovulaire et qui sont prolongement direct de son ectoderme comme de son endoderme, qui sont partie de lui-même, la séparation se fait à l'intérieur d'une unité qui est celle de l'œuf. Or, l'accent qu'ici j'entends mettre tient à la spécificité dans la structure organismique de l'organisation dite mammifère. Ce qui, pour la presque totalité des mammifères, spécifie le développement de l'œuf. C'est l'existence du placenta, et même d'un placenta tout à fait spécial, celui qu'on appelle chorioallantoïdien, celui par lequel, sous toute une face de son développement, l'œuf, dans sa position intra-utérine, se présente dans une relation semi-parasitaire à l'organisme de la mère. Quelque chose dans l'étude de l'ensemble de cette organisation mammifère, quelque chose est pour nous suggestif, indicatif, à un certain niveau de l'apparition de cette structure organismique, nommément celui de deux ordres, si l'on peut dire, qui sont ce qu'on appelle les plus primitifs dans l'ensemble des mammifères, celui nommément des monotrèmes et des marsupiaux. Nous avons la notion chez les marsupiaux de l'existence d'un autre type de placenta, qui n'est point chorioallantoïdien, mais chorio-vitella. Nous ne nous arrêterons pas à cette nuance. Mais chez les monotrèmes, donc je pense que depuis l'enfance, vous avez au moins l'image sous la forme de ces animaux qui, dans le petit Larousse, fourmillent en troupe comme se pressant à la porte d'une nouvelle arche de Noé, c'est-à-dire qu'il y en a deux, quelquefois, voire seulement un par espèce. Vous avez l'image de l'ornithorynque et aussi bien l'image de ce qu'on appelle le type échidné. Ce sont des mammifères. Ce sont des mammifères chez lesquels l'œuf, quoique nidant dans un utérus, n'a aucun rapport placentaire avec l'organisme maternel. La mame existe pourtant déjà. La mame, dans son rapport essentiel, comme définissant la relation du rejeton à la mère, la mame existe déjà au niveau du monotrème, de l'ornithorynque, et fait mieux voir à ce niveau quelle est sa fonction originelle. Pour tout de suite éclairer ce que j'entends dire ici, je dirais que la mame se présente comme quelque chose d'intermédiaire et que c'est entre la mame et l'organisme maternel qu'il nous faut concevoir que réside la coupure avant même que le placenta nous manifeste. Que le rapport nourricier à un certain niveau de l'organisme vivant prolonge au-delà de la fonction de l'œuf qui, chargé de tout le bagage qui permet son développement, fera se rejoindre l'enfant à ses géniteurs que dans l'expérience commune d'une recherche de nourriture, nous avons cette fonction de relation que j'ai appelée parasitaire, cette fonction ambiguë où intervient cet organe embocepteur, le rapport de l'enfant, autrement dit à la mame, est homologique. Et ce qui nous permet de le dire, c'est qu'il est plus primitif que l'apparition du placenta, est homologique à ce quelque chose qui fait qu'il y a d'un côté l'enfant et la mame, et que la mame est en quelque sorte plaquée, implantée sur la mère. C'est cela qui permet à la mame de fonctionner structuralement au niveau du petit A. C'est parce que le petit A est quelque chose dont l'enfant est séparé d'une façon en quelque sorte interne à la sphère de son existence propre, qu'il est bel et bien le petit A. Vous allez voir ce qu'il en résulte comme conséquence. Le lien de la pulsion orale se fait à cet objet embocepteur. Qu'est-ce qui fait l'objet de la pulsion orale? C'est ce que nous appelons d'habitude l'objet partiel, le sein de la mère. Où est à ce niveau ce que j'ai appelé tout à l'heure le point d'angoisse? Il est justement au-delà de cette sphère. Le point d'angoisse est au niveau de la mère. L'angoisse du manque de la mère chez l'enfant, c'est l'angoisse du tarissement du sein. Le point d'angoisse ne se confond pas avec le lieu et la relation à l'objet du désir. La chose est singulièrement imagée par ces animaux que, d'une façon sans doute pour vous inattendue, j'ai fait là surgir sous l'aspect de ces représentants de l'ordre des monotrèmes. Effectivement, tout se passe comme si cette image d'organisation biologique avait été par quelques créateurs prévoyants fabriqués pour nous manifester la véritable relation qui existe au niveau du nourrissage, de la pulsion orale avec cet objet privilégié qu'est la mame. Car, que vous le sachiez ou non, le petit ornithorin, après sa naissance, séjourne un certain temps hors du cloaque, dans un lieu situé sur le ventre de la mère, appelé incubatorium. Il est encore, à ce moment, dans les enveloppes qui sont les enveloppes d'une sorte d'œuf dur. D'où il sort? D'où il sort à l'aide d'une dent dite dent d'éclosion, doublée, puisqu'il faut être précis, de quelque chose qui se situe au niveau de sa lèvre supérieure et qui s'appelle caroncule. Ses organes ne lui sont pas spéciaux. Ils existent déjà avant l'apparition des mammifères. Ces organes qui permettent fœtus de sortir de l'œuf existent déjà au niveau des serpents où ils sont spécialisés. Les serpents n'ayant, si mon souvenir est bon, que la dent dite d'éclosion, tandis que d'autres variétés des reptiles, plus exactement, qui ne sont pas des serpents, nommément les tortues et les crocodiles, n'ont que la caroncule. L'important est ceci, c'est qu'il semble que la mame de la mère de l'ornithorynque, ait besoin de la stimulation de cette pointe même armée que présente le museau du petit ornithorynque pour déclencher, si l'on peut dire, son organisation et sa fonction. Et qu'il semble que pendant une huitaine de jours, il faille que ce petit ornithorynque s'emploie au déclenchement de ce qui paraît bien plus suspendu à sa présence, à son activité, qu'à quelque chose qui tienne essentiellement à l'organisme de la mère. Aussi bien d'ailleurs, nous donne-t-il curieusement, l'image d'un rapport en quelque sorte inversé à celui de la protubérance mammaire, puisque ces mâmes d'ornithorynque sont des mâmes en quelque sorte en creux. Le bec s'insère. Voici à peu près ici où seraient les éléments glandulaires, les lobules producteurs du lait, mais c'est museau armé déjà, qui n'est pas encore durci sous la forme d'un bec comme il deviendra plus tard, que ce museau vient se loger. L'existence donc et la distinction de deux points originels dans l'organisation mammifère. Le rapport à la mame comme telle, qui restera structurant pour la subsistance, le soutien du rapport de désir, pour le maintien de la mame, nommément comme objet qui deviendra ultérieurement l'objet fantasmatique, mais d'autre part, la situation ailleurs, dans l'autre, au niveau de la mère, et en quelque sorte non coïncident, déporté du coin d'angoisse comme étant celui où le sujet a rapport avec ce dont il s'agit, avec son manque, avec ce à quoi il est suspendu, l'existence de l'organisme de la mère, c'est là ce que il nous est permis de structurer d'une façon plus articulée par cette seule considération d'une physiologie qui nous montre que le petit tas est un objet séparé de l'organisme de l'enfant, que le rapport à la mère est à ce niveau un rapport sans doute essentiel, mais qui par rapport à cette totalité organismique où le petit a se sépare, s'isole, et est méconnu en plus comme tel, comme s'étant isolé de cet organisme, Ce rapport à la mer, le rapport de manque, se situe au-delà du lieu où s'est joué la distinction de l'objet partiel comme fonctionnant dans la relation du désir. Bien sûr, le rapport est plus complexe encore. Et l'existence dans la fonction de la succion, à côté des lèvres, l'existence de cet organe énigmatique est depuis longtemps repéré comme tel. Souvenez-vous de la fable d'Ésope, qu'est la langue, nous permet également de faire intervenir à ce niveau ce quelque chose qui, dans les sous-jacences de notre analyse, est là pour nourrir l'homologie avec la fonction phallique et sa dissymétrie singulière, celle sur laquelle nous allons revenir à l'instant. C'est à savoir que la langue joue à la fois dans la succion ce rôle essentiel de fonctionner par ce qu'on peut appeler aspiration, soutien d'un vide dont c'est essentiellement la puissance d'appel qui permet à la fonction d'être effective, et d'autre part, d'être ce quelque chose qui peut nous donner l'image de la sortie de ce plus intime, de ce secret de la succion, de nous donner sous une première forme ce quelque chose qui restera, je vous l'ai marqué, à l'état de fantasme au fond de tout ce que nous pouvons articuler autour de la fonction phallique, à savoir le retournement du gant, la possibilité d'une éversion de ce qui est au plus profond du secret de l'intérieur. Que le point d'angoisse soit au-delà du lieu où joue la fonction, du lieu où s'assure le fantasme dans son rapport essentiel à l'objet partiel, c'est ce qui apparaît dans ce prolongement du fantasme qui fait image, qui reste toujours plus ou moins sous-jacent à la créance que nous donnons à un certain mode de la relation orale, celui qui s'exprime sous l'image de la fonction dite du vampirisme. Il est vrai que l'enfant, s'il est dans tel mode de son rapport à la mère, un petit vampire, s'il se pose comme organisme un temps suspendu en position parasitaire, il n'en reste pourtant pas moins qu'il n'est pas non plus ce vampire, à savoir qu'à nul moment ce n'est de ses dents ni à la source qu'il va chercher chez la mère la source vivante et chaude de sa nourriture. Pourtant, l'image du vampire, si mythique qu'elle soit, est là pour nous révéler, par l'aura d'angoisse qui l'entoure, la vérité de ce rapport au-delà qui se profile dans la relation du nourrissage, celle qui lui donne son accent le plus profond, celui qui ajoute la dimension d'une possibilité du manque réalisé au-delà de ce que l'angoisse recèle de craintes virtuelles, le tarissement du sein, ce qui met en cause comme tel la fonction de la mère, est un rapport qui se distingue, pour autant qu'il se profile dans l'image du vampirisme, qui se distingue comme un rapport angoissant. La distinction donc, je le souligne bien, de la réalité du fonctionnement organismique avec ce qui s'en ébauche au-delà, voilà ce qui nous permet de distinguer le point d'angoisse du point de désir, ce qui nous montre qu'au niveau de la pulsion orale, le point d'angoisse est au niveau de l'autre et c'est que c'est là que nous l'éprouvons. Freud nous dit, l'anatomie, c'est le destin. Vous le savez, à certains moments, m'élever contre cette formule pour ce qu'elle peut avoir d'incomplet. Elle devient vraie, vous le voyez, si nous donnons au terme anatomique son sens strict et, si je puis dire, étymologique, celui qui met en valeur anatomie, la fonction de la coupure, ce par quoi tout ce que nous connaissons de l'anatomie est lié à la dissection, c'est pour autant qu'est concevable ce morcellement, cette coupure du corps propre et qu'il a des lieux, des moments élus de fonctionnement, c'est pour autant que le destin, c'est-à-dire le rapport de l'homme à cette fonction qui s'appelle le désir, prend toute son animation. La séparation fondamentale, non pas séparation, mais partition à l'intérieur, voilà ce qui se trouve dès l'origine et dès le niveau de la pulsion orale, inscrit dans ce qui sera structuration du désir. Nul étonnement dès lors à ce que nous ayons été à ce niveau pour trouver quelques images plus accessibles à ce qui est resté pour nous. Pourquoi toujours jusqu'à présent paradoxe, à savoir que dans le fonctionnement phallique, dans celui qui est lié à la copulation, c'est aussi l'image d'une coupure, d'une séparation de ce que nous appelons improprement castration, puisque c'est une image d'éviration qui fonctionne. Ce n'est sans doute pas au hasard, ni sans doute à mauvais escient que nous sommes allés chercher dans des fantasmes plus anciens, la justification de ce que nous ne savions pas très bien comment justifier au niveau de la phase phallique, il convient pourtant de marquer qu'à ce niveau, quelque chose s'est produit qui va nous permettre de nous repérer dans toute la dialectique ultérieure. Comment, en effet, tel que je viens de vous l'énoncer, comment s'est passée la répartition au niveau topologique que je vous ai appris à distinguer du désir, de sa fonction et de l'angoisse. Le point d'angoisse est au niveau de l'autre, au niveau du corps de la mère. Le
fonctionnement du désir, c'est-à-dire du fantasme. La vacillation qui unit étroitement le sujet au petit A, ce par quoi le sujet se trouve essentiellement suspendu, identifié à ce petit A, reste toujours élidé, toujours caché, qu'il nous faut détecter, sous-jacent à tout rapport du sujet à un objet quelconque. Vous le voyez ici, et vous rappelez arbitrairement ici, grand S, le niveau du sujet, ce qui dans mon schéma, si vous le voulez, mon schéma du vase reflété dans le miroir de l'autre se trouve en deçà de ce miroir. Voilà, au niveau de la pulsion orale, où se trouvent les rapports. La coupure, vous ai-je dit, est interne au champ du sujet. Le désir fonctionne. Nous retrouvons là la notion freudienne d'auto-érotisme. À l'intérieur d'un monde qui, quoique éclaté, porte la trace de sa première clôture, à l'intérieur de ce qui reste, imaginaire, virtuel, de l'enveloppe de l'œuf. Que va-t-il en être au niveau où se produit le complexe de castration? Nous assistons à ce niveau un véritable renversement du point de désir et du lieu de l'angoisse. Si quelque chose est promu par le mode, sans doute encore imparfait, mais chargé de tout le relief d'une conquête bénie, faite pas à pas, ceci, depuis l'origine de la découverte freudienne, ce qu'il a révélé par la structure, c'est le rapport étroit de la castration, de la relation à l'objet dans le rapport phallique, comme contenant implicite la privation de l'organe. S'il n'y avait pas d'autre, et peu importe qu'ici cet autre, nous l'appelions la mère castratrice, le père de l'interdiction originelle, il n'y aurait pas de castration. Le rapport essentiel de cette castration, désormais, avec tout le fonctionnement copulatoire, nous a ici d'ores et déjà incité à essayer, après tout, selon l'indication de Freud lui-même, qui nous dit bien qu'à ce niveau, sans qu'en rien il le justifie pourtant. C'est à quelques rocs biologiques que nous touchons, nous a incité ici à articuler. Comme gisant dans une particularité de la fonction de l'organe copulatoire à un certain niveau biologique, je vous l'ai fait remarquer, à d'autres niveaux, dans d'autres ordres, dans d'autres branches animales, l'organe copulatoire est un crochet, est un organe de fixation, ne peut être appelé organe mâle que de la façon la plus sommairement analogique. Il nous indique assez qu'il convient de distinguer le fonctionnement particulier au niveau d'organisation animale dite supérieure de cet organe copulatoire, qu'il est essentiel de ne pas confondre ces avatars, le mécanisme nommément de la tumescence et de la détumescence, avec quelque chose qui, par soi, soit essentiel à l'orgasme. Sans aucun doute, nous nous trouvons là devant, si je puis dire, ce qu'on peut appeler une limitation de l'expérience. Nous n'allons pas, vous l'ai-je déjà dit, essayer de concevoir ce que peut être l'orgasme dans un rapport copulatoire autrement structuré, suffisamment au reste de spectacle naturel, impressionnant. Il vous suffit de vous promener le soir au bord d'un étang pour voir voler étroitement nouées deux libellules. Et ce seul spectacle peut vous en dire assez sur ce que nous pouvons concevoir comme étant un long orgasme. Si vous me permettez ici de faire un mot en y mettant un tiret. Et aussi bien, n'est-ce pas pour rien, que j'ai évoqué l'image ici fantasmatique du vampire. Qui n'est point rêvé ni conçu autrement par l'imagination humaine, ce mode de fusion ou de soustraction première à la source même de la vie, où le sujet agresseur peut trouver la source de sa jouissance. Assurément. L'existence même du mécanisme de la détumescence dans la copulation des organismes les plus analogues à l'organisme humain suffit déjà à soi tout seul à marquer la liaison de l'orgasme avec quelque chose qui se présente bel et bien comme la première image, l'ébauche de ce qu'on peut appeler coupure, séparation, fléchissement, aphanisis, disparition à un certain moment de la fonction de l'organe. Mais alors, si nous prenons les choses sous ce biais, nous reconnaîtrons que l'homologue du point d'angoisse en cette occasion, qui se trouve dans une position strictement inversée à celle où se trouvait au niveau de la pulsion orale, l'homologue du point d'angoisse, c'est l'orgasme lui-même. Comme expérience subjective, et c'est ce qui nous permet de justifier ce que la clinique nous montre d'une façon très fréquent, à savoir la sorte d'équivalence fondamentale qu'il y a entre l'orgasme et au moins certaines formes de l'angoisse, la possibilité de la production d'un orgasme au sommet d'une situation angoissante, l'érotisation, nous dit-on de toutes parts, l'érotisation éventuelle d'une situation angoissante recherchée comme telle, et inversement, un mode d'éclaircie, ce qui fait, si nous en croyons, ce témoignage humain universel renouvelé, cela vaut la peine après tout, de noter que quelqu'un, et quelqu'un du niveau de Freud, ose l'écrire, l'attestation de ce fait que il n'y a rien qui soit en fin de compte, qui représente en fin de compte pour l'être humain de plus grande satisfaction que l'orgasme lui-même, une satisfaction qui dépasse assurément pour pouvoir être articulé ainsi, être non pas seulement mis en balance, mais être mis en fonction de primauté, de préséance par rapport à tout ce qu'il peut être donné à l'homme d'éprouver. Si la fonction de l'orgasme peut atteindre cette éminence, est-ce que ce n'est pas parce que dans le fond de l'orgasme réalisé, il y a quelque chose de ce que j'ai appelé la certitude liée à l'angoisse? Est-ce que ce n'est pas dans la mesure où l'orgasme, c'est la réalisation même de ce que l'angoisse indique comme repérage, comme direction du lieu de la certitude? L'orgasme de toutes les angoisses est la seule qui réellement s'achève. Aussi bien, c'est bien pour cela que l'orgasme n'est pas d'une atteinte si commune, et que s'il nous est permis d'en indiquer l'éventuelle fonction dans le sexe, où il n'y a justement de réalité phallique sous la forme du nombre, c'est aussi dans ce même sexe que l'orgasme nous reste le plus énigmatique, le plus fermé, peut-être jusqu'ici, dans sa dernière essence, jamais authentiquement situé. Que nous indique ce parallèle, cette symétrie, cette réversion établie dans le rapport du point d'angoisse et du point de désir? Sinon, que dans aucun des deux cas, il ne coïncide. Et c'est ici, sans doute, que nous devons voir la source de l'énigme qui nous est laissée par l'expérience freudienne. Dans toute la mesure où la situation du désir virtuellement impliquée dans notre expérience, qui, si je puis dire, la trame tout entière, n'est pas pourtant dans Freud véritablement articulée. La fin de l'analyse bute sur quelque chose qui fait prendre la forme du signe impliqué dans la relation phallique. Le phi, en tant qu'il fonctionne structurellement comme moins phi, qui fait prendre cette forme comme étant le corrélat essentiel de la satisfaction. Si à la fin de l'analyse freudienne, le patient, quel qu'il soit, mâle ou femelle, nous réclame le phallus que nous lui devons, c'est en fonction de ce quelque chose d'insuffisant par quoi la relation du désir à l'objet qui est fondamental n'est pas distinguée à chaque niveau de ce dont il s'agit comme manque constituant de la satisfaction. Le désir est illusoire. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse toujours ailleurs, à un reste. À un reste constitué par la relation du sujet à l'autre et qui vient s'y substituer. Mais ceci laisse ouvert le lieu où peut être trouvé ce que nous désignons du nom de certitude. Nul phallus à demeure, nul phallus tout puissant n'est de nature à clore la dialectique du rapport du sujet à l'autre et au réel par quoi que ce soit qui soit d'un ordre apaisant. Est-ce à dire que si nous touchons là la fonction structurante du leurre, nous devions nous y tenir? Avouer notre impuissance, notre limite, et le point où se brise la distinction de l'analyse finie à l'analyse indéfinie. Je crois qu'il n'en est rien. Et c'est ici qu'intervient ce qui et recelé au nerf le plus secret de ce que j'ai avancé dès longtemps devant vous sous les espèces du stade du miroir et ce qui nous oblige à essayer d'ordonner dans le même rapport désir, objet et point d'angoisse ce dont il s'agit quand intervient ce nouvel objet petit a dont ma dernière leçon était l'introduction, la mise en jeu, à savoir l'œil. Bien sûr, cet objet partiel n'est pas nouveau dans l'analyse. Et je n'aurai ici qu'à évoquer l'article de l'auteur le plus classique, le plus universellement reçu dans l'analyse, nommément M. Pénichel, sur le sujet des rapports de la fonction scoptophilique à l'identification et les homologies mêmes qu'il va à découvrir des rapports de cette fonction à la relation orale. Néanmoins, tout ce qui a été dit sur ce sujet peut à juste titre paraître insuffisant. L'œil n'est pas une affaire qui ne nous reporte qu'à l'origine des mammifères, ni même des vertébrés, ni même des chordés. L'œil apparaît dans l'échelle animale d'une façon extraordinairement différenciée dans toute son apparence anatomique, semblable essentiellement à celui dont nous sommes les porteurs, au niveau d'organismes qui n'ont avec nous rien de commun. Pas besoin, je l'ai déjà maintes fois fait dans des images que j'ai ici essayé de rendre fonctionnel, de rappeler que l'œil existe au niveau de la menthe religieuse, mais aussi au niveau aussi bien de la pieuvre. Je veux dire l'œil avec cette particularité dont nous devons dès là-bas introduire remarque, c'est que c'est un organe toujours double. Et un organe qui fonctionne en général dans la dépendance d'un chiasma. C'est-à-dire qu'il est lié au nœud entrecroisé qui lie deux parties que nous appelons symétriques du corps. Le rapport de l'œil avec une symétrie au moins apparente, car nul organisme n'est intégralement symétrique, est quelque chose qui doit éminemment pour nous entrer en ligne de compte. S'il y a quelque chose que mes réflexions de la dernière fois, souvenez-vous-en, à savoir la fonction radicale de miracle, qui est incluse dès le premier fonctionnement de l'œil. Le fait que l'œil est déjà miroir. Et implique en quelque sorte, déjà dans sa structure, le fondement, si l'on peut dire, esthétique, transcendantal d'un espace constitué, est quelque chose qui doit céder la place à ceci. C'est que quand nous parlons de cette structure transcendantale de l'espace, comme d'une donnée irréductible de l'appréhension esthétique d'un certain champ du monde, cette structure n'exclut qu'une chose, celle de la fonction de l'œil lui-même, de ce qu'il est. Ce dont il s'agit est de trouver les traces de cette fonction exclue qui déjà s'indique assez pour nous comme homologue de la fonction du petit a dans la phénoménologie de la vision elle-même. C'est ici que nous ne pouvons procéder que par ponctuation, indication, remarque. Assurément, dès longtemps, tous ceux, nommément les mystiques, qui se sont attachés à ce que je pourrais appeler le réalisme du désir, pour qui toute tentative d'atteindre à l'essentiel s'est indiquée comme surmontant ce quelque chose d'engluant qu'il y a dans une apparence qui n'est jamais conçue que comme apparence visuelle. Ceux-là nous ont déjà mis sur la voie de quelque chose dont témoignent aussi bien toutes sortes de phénomènes naturels, à savoir ceci qui, hors d'un tel registre, reste énigmatique, à savoir, dis-je, les apparences dites mimétiques qui se manifestent dans l'échelle animale, exactement au même niveau, au même point où apparaît l'œil. Au niveau des insectes, où nous pouvons nous étonner, pourquoi pas, qu'une paire d'yeux soit une paire faite comme la nôtre, à ce même niveau apparaissent cette existence d'une double tâche dont les physiologistes, qu'ils soient évolutionnistes ou qu'ils ne le soient pas, se cassent la tête à se demander qu'est-ce qui peut bien conditionner quelque chose dont, en tout cas, le fonctionnement et celui sur l'autre, prédateur ou non, celui d'une fascination. La liaison de la paire d'yeux, et si vous voulez, du regard, avec un élément de fascination en lui-même énigmatique, avec ce point intermédiaire où toute subsistance subjective semble se perdre et s'absorber, sortir du monde, c'est bien là ce que l'on appelle fascination dans la fonction du regard. Voilà le point, si je puis dire, d'irradiation qui nous permet de mettre en cause d'une façon plus appropriée ce que nous révèle dans la fonction du désir le champ de la vision. Aussi bien est-il frappant que dans la tentative d'appréhender, de raisonner, de logiciser le mystère de l'œil, et ceci au niveau de tous ceux qui se sont attachés à cette forme de capture majeure du désir humain, le fantasme du troisième œil se manifeste partout. Je n'ai pas besoin de vous dire que sur les images de Bouddha dont j'ai fait état la dernière fois, le troisième œil de quelque manière est toujours indiqué. Ai-je besoin de vous rappeler que ce troisième œil qui est promulgué, promu, articulé dans la plus ancienne tradition magico-religieuse, que ce troisième œil rebondit jusqu'au niveau de Descartes, qui, chose curieuse, ne va à en trouver le substrat que dans un organe régressif, rudimentaire, celui de l'épiphyse, dont on peut dire, peut-être, qu'en un point de l'échelle animale, quelque chose apparaît, se réalise, qui porterait la trace d'une antique émergence. Mais ce n'est là, après tout, que rêverie. Nous n'en avons nul témoignage, fossile ou autre, l'existence d'une émergence de cet appareil dit troisième œil. Dans ce mode, d'abord, de la fonction de l'objet partiel qu'est l'œil dans ce nouveau champ et son rapport au désir, ce qui apparaît comme corrélatif du petit a, une fonction de l'objet du fantasme, est quelque chose que nous pouvons appeler un point zéro, dont l'éploiement sur tout le champ de la vision est ce qui donne à ce champ source pour nous d'une sorte d'apaisement, traduit depuis longtemps, depuis toujours, dans le terme de contemplation, de suspension du déchirement du désir. Suspension certes fragile, aussi fragile qu'un rideau, toujours prêt à se reployer pour démasquer le mystère qu'il cache. ce point zéro. Vers lequel l'image bouddhique semble nous porter. Dans la mesure même où ses paupières abaissées nous préservent de la fascination du regard tout en nous l'indiquant. Cette figure qui, dans le visible, est toute tournée vers l'invisible. Mais qui nous l'épargne. Cette figure, pour tout dire, qui prend ici le point d'angoisse tout entier à sa charge, ce n'est pas pour rien aussi qu'elle suspend, qu'elle annule apparemment le mystère de la castration. C'est ce que j'ai voulu vous indiquer la dernière fois par mes remarques et la petite enquête que j'avais faite sur l'apparente ambiguïté psychologique de ces figures. Est-ce là dire qu'il y ait d'aucune façon possibilité de se confier, de s'assurer dans une sorte de champ qu'on a appelé apollinien. Voyez-le aussi bien noétique, contemplatif, où le désir pourrait se supporter d'une sorte d'annulation ponctiforme de son point central. D'une identification de petit a avec ce point zéro entre les deux yeux, qui est le seul lieu d'inquiétude qui reste dans notre rapport au monde quand ce monde est un monde spatial. Assurément, non, puisqu'il reste justement ce point zéro qui nous empêche de trouver dans la formule du désir illusion le dernier terme de l'expérience. Ici, le point de désir et le point d'angoisse coïncident. Mais ils ne se confondent pas. Non seulement ils ne se confondent pas, mais ils laissent pour nous ouverte ce pourtant sur lequel rebondit éternellement la dialectique de notre appréhension du monde, et nous la voyons toujours ressurgir chez nos patients, et pourtant, je cherchais un peu comment se dit pourtant en hébreu, ça vous amusera, et pourtant, ce désir qui ici se résume à la nullification de son objet central, il n'est pas sans cet autre objet qu'appelle l'angoisse. Il n'est pas sans objet. Ce n'est pas pour rien que dans ce passant, je vous ai donné la formule, l'articulation essentielle de l'identification de désir, c'est au-delà de « il n'est pas sans objet » que se pose pour nous la question de savoir où peut être franchie la basse du complexe de castration. C'est ce que nous aborderons la prochaine fois.